Et donc, voilà, nous sommes très heureux. Donc, je prends le relais de Carlo Ossola. Et comme vous l'a dit Antoine Compagnon tout à l'heure, il y a eu un léger changement de programme en raison d'un léger problème de santé. Jean-Charles Darmon n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi. Donc, nous lui adressons nos voeux de prompt rétablissement. Mais, alors, c'était quelque chose, je crois, que signalait Michel Zinc ce matin. Il s'agit de réunir dans ce colloque d'hommage les proches, les gens qui ont côtoyé, qui ont pensé avec Marc Fumaroli et entrer dans la bibliothèque de Marc Fumaroli, si l'on pense que les livres, selon un vieux topos, les livres sont les meilleurs amis des hommes, le topos peut aussi se renverser, à savoir que voir les meilleurs amis des personnes disparues, c'est aussi entrer dans leur bibliothèque, c'est aussi entrer dans leur esprit. Jean-Charles Damon était un disciple proche de Marc Fumaroli, mais nous avons également la chance d'accueillir avec Florence Vuillemier-Laurens, qui est professeure de littérature de l'âge classique à l'Université de Bretagne occidentale, une autre grande disciple de Marc Fumaroli, et qui vraiment continue son travail, en particulier sur la République des lettres. Je ne vais pas entrer dans votre propos, mais je crois que vous allez présenter un ouvrage que vous avez publié sur cette anthologie de la République des lettres, qui est totalement dans la lignée du travail de Marc Fumaroli. Et donc, chère Florence, je vous cède la parole pour une intervention intitulée, et je trouve que c'est intéressant d'entendre le latin dans ce colloque, dans cette assemblée, puisque le latin était précisément la langue de cette République des lettres, une intervention intitulée « Respublica Romana Christiana Literaria ». Je vous donne la parole.
Alors, dans l'avant-propos qui ouvre l'anthologie de la République des lettres, que donc je vous montre un exemplaire, publié donc ce mois de mai, aux belles lettres, en hommage à son livre phare, par Pierre Laurence, Colette Nativelle et moi-même, Marc Fumaroli s'attarde avec un soupçon de nostalgie sur la période antérieure à la Révolution française et au surgissement des nationalismes, où l'Europe s'est reconnue comme une communauté unie par le partage d'une culture. Et se demandant à quel moment et de quelle façon ce projet avait pu prendre corps, il désigne sans hésiter Pétrarque et l'immense corpus de sa correspondance. C'est cette intuition que nous voudrions développer aujourd'hui. Mais pour la mettre en perspective, il nous semble nécessaire de nous arrêter sur deux autres moments de l'histoire qui ont illustré, chacun à sa façon, l'existence d'un État transcendant les frontières et unissant qui par la loi, qui par la foi, les sujets de tout un continent. Le premier est l'œuvre de la Rome païenne. Un article remarqué de Pierre Grimal, prenant prétexte d'un vers fameux du Eoton Timoroumenos de Terence, « Nil humania me alienum puto », c'est-à-dire « rien d'humain ne me semble étranger », qui n'a pas son correspondant dans la comédie source de Ménandre, dignait à la philanthropia grecque, simple vertu de bienveillance à l'égard de son prochain, d'avoir les mêmes prolongements que l'humanitas latine, laquelle suppose l'appartenance à une même essence. Et après avoir relevé les derniers mots de Sénèque dans la Constance du Sage, « Respublica humani generis », la république du genre humain, et cette phrase du Deotio, « Duas res publicas animo complectamur », c'est-à-dire « nous avons à l'esprit deux républiques », l'une vaste et vraiment publique qui contient les dieux et les hommes, l'autre à laquelle nous sommes assignés par la naissance. Il renvoie à la source de ce concept, à Cicéron, qui dans les lois explique que les dieux et les hommes, par la raison, forment une seule cité, qui est le monde entier. L'intérêt de l'analyse de Pierre Grimal est qu'elle fait le lien entre la thèse philosophique qui a pu s'inspirer de la réflexion grecque la plus récente, je pense à Panitius, et une tendance profonde et ancienne de l'âme latine, une aptitude à dépasser le concept par le droit, par la création d'une societas iuris, patrie de droit au-dessus des patries natales de chacun. Cela, évidemment, commence avec l'enlèvement des Sabines, commenté ainsi par Tacite, honneur à Romulus, qui le même jour vit ses voisins, à la fois ennemis et citoyens. Cela continue au premier siècle, avec l'intégration des Italiens dans la cité et l'extension progressive de l'État aux limites de la péninsule, puis de l'Empire, qui dans le recensement d'Auguste en 14, l'année même de sa mort, compte environ 4 937 000 sujets, dont une large part de provinciaux. Mais ce sont précisément deux empereurs, nés hors d'Italie, Claude et Caracalla, qui sont allés le plus loin en élargissant l'octroi de la citoyenneté dans deux textes majeurs produits sur le sujet, la table claudienne et la constitution antonine. La table claudienne est le nom donné à la retranscription du discours prononcé par l'empereur Claude devant le Sénat en août 48. Gravée sur une plaque de marbre, elle a été retrouvée à Lyon et on peut la voir au musée gallo-romain de la ville. Par ce texte, Claude souhaitait étendre la citoyenneté aux notables de la Gaule chevelue. Mais ce plaidoyer pour une assimilation progressive dérivant vers l'intégration fut retoqué par le Sénat et il faudra attendre le règne de Caracalla, près d'un siècle et demi plus tard, en 212, pour que le projet aboutisse, octroyant la citoyenneté romaine à tout homme libre résidant sur les territoires de l'Empire romain. 15 mots d'une concision étourdissante que nous livre le papyrus conservé à la bibliothèque de l'université de Gießen. Je donne la citoyenneté romaine, je traduis donc, à tous les pérégrins du monde habité, toutes les formes d'organisation municipale étant maintenues, exception faite pour les dedicitiae, les dedicis. Par cette décision, enregistrée par le juriste Ulpien dans le Digeste, tout homme libre sur cet immense territoire conquis par les armes devient citoyen romain et jouit des droits relatifs à son statut. Il acquiert la possibilité de transmettre à ses héritiers les attributs conférés par son rang. Il peut, sous forme de testament, s'assurer du respect de ses legs. Il accède également à la propriété, au port public de la toge et la déclinaison de son identité en trois noms. Le nouveau citoyen bénéficie, face à la justice romaine, de protections nouvelles, tels que le bannissement des châtiments corporels infamants ou la permission de faire appel au peuple en cas de jugements immérités. Évidemment, on a soupçonné, notamment Dion Cassius, sous cette générosité des raisons économiques et fiscales, car les étrangers ne payaient pas la plupart des taxes. Mais deux bons juges ont souligné la portée politique de la mesure. Augustin, dans la Cité de Dieu, revient ainsi sur l'officialisation d'un processus établi depuis longtemps et qui confère à l'impérium romain une justification que ne lui donnait pas la seule force des armes. Mais avant lui, dès le milieu du IIe siècle, Ilius Aristide, dans son discours en l'honneur de Rome, avait déjà confié son admiration par la mission civilisatrice de Rome. Je cite. Mais il y a quelque chose qui décidément mérite autant d'attention et d'admiration que tout le reste. Je veux dire votre généreuse et magnifique citoyenneté, Romain. Avec sa grandiose conception, car il n'y a rien d'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité, vous avez fait deux parts de ceux qui vivent sous votre empire, c'est-à-dire la terre habitée, et vous avez partout donné la citoyenneté comme un droit de parenté avec vous. À ceux qui représentent les élites du talent, du courage ou de l'influence, le reste vous étant soumis comme des sujets. Après le droit, la foi. Avec le secours cette fois-ci de Jacques Fontaine et Charles Pietri, d'Henri et Irénée Maroux et Jacques Verger, nous abordons notre deuxième point, qui vient se greffer sur le premier, après la Romana Respublica, la Respublica Christiana. Omnium enim Christianorum una Respublica est. Je ne traduis pas, hein. L'expression se trouve déjà dans le De opere monachorum d'Augustin, qui, dans son ouvrage le plus connu, annonce que deux amours ont bâti deux cités, cité de la terre et cité de Dieu, l'une fondée par la force, l'autre par l'esprit. Mais dans l'esprit d'Augustin, cette dernière n'était réalisable que dans l'au-delà. Cependant, autorisée par l'édit de Milan, qui en 313 protégeait des persécutions les tenants de la religion nouvelle, fortifiée par les constitutions successives de Constantin, qui faisait d'elle la religion de l'Empire, le peuple chrétien s'est très tôt doté d'une organisation temporelle parallèle à la structure civile. Réunis en communauté, régis par les évêques, le premier d'entre eux, l'évêque de Rome, prenant le nom de pape, successeur de Pierre, et incarnant un pouvoir spirituel à la fois complémentaire et rival du pouvoir temporel de l'empereur, pour un gouvernement conjoint du regnum et du sacerdotium. Les deux piliers de la Respublica Christiana, les deux ordines dont les rapports définis dès 1494 par la lettre du pape Gélas Ier à l'empereur Anastase, constitueront la trame essentielle de l'ecclésiologie médiévale. À l'empereur, le maintien de la paix sur le territoire de l'Empire. Au pape, le salut des âmes, avec pour premier devoir l'évangélisation des populations païennes, et pour commencer, les territoires soumis à la conquête. On mesure mieux, depuis la publication de Par Dag Norberg en 1982 du Registrum, cette exceptionnelle collection de plus de 850 lettres conservées du pape Grégoire le Grand et plus ou moins directement composées par lui, l'étendue du magistère exercé par ce champion infatigable qui n'a cessé de négocier au cours de ses 14 années de pontificat, d'une part avec l'empereur d'Orient, d'autre part avec les rois qui se partagent l'Occident et auprès desquels il fait valoir, avec des succès divers, les droits du principatus romain. Illyrie, Afrique, Espagne wisigothique, Gaule et Grande-Bretagne, où il obtient un succès foudroyant quand il convertit le roi Ethelbert et une partie de son peuple grâce à l'envoi de 40 missionnaires dirigés par son disciple Augustin, homonyme du saint. Cela au 7e siècle, de notre ère. Quelques siècles plus tard, la papauté soutiendra ce travail de prosélytisme grâce à la création des ordres mendiants, qui s'attaquent à la reconquête religieuse de la société urbaine. Dominés par les figures de François d'Assise et de Saint-Dominique, on compte vers 1300 près de 2000 couvents en Occident, dont plus de 1100 pour les seuls franciscains et 400 pour les dominicains. Et avec la prédication, l'enseignement. La Rome païenne avait mis au point un système éducatif destiné à transmettre la culture appropriée à l'homme libre. C'est le système des sept arts libéraux, mi-littéraire, mi-scientifique, théorisé par Varron et par Macrobe. Cette structure éducative, dont la première partie est assurée par les écoles du grammairien et du rhéteur, sera mise à mal avec les invasions, mais adoptée par les chrétiens comme une propaideia, elle se maintient dans les monastères du Mont Cassin, de Vivarium, de Bobbio au 6e, 7e siècle, dans les écoles épiscopales au 8e, 9e, au 8e siècle, dans les universités à la fin du 12e, au 13e siècle, avec l'université de Bologne, Paris, Oxford, Montpellier, Salamanque, Padoue. Une des institutions les plus originales du Moyen-Âge, que le Moyen-Âge nous est léguée. Non seulement des écoles de niveau supérieur, mais des communautés autonomes de maîtres et de disciples, réunis pour s'adonner à l'étude, jouent un rôle considérable dans la transformation des sociétés en assurant la formation d'une part croissante des élites sociales, laïques et ecclésiastiques. Et en garantissant la diffusion de la culture dans l'Europe occidentale, en particulier pour toutes les disciplines qui relevaient de la philosophie au sens médiéval du mot, de la théologie, du droit et de la médecine. Non seulement génératrice de réseaux, unissant les disciples et leurs maîtres au sein de chaque école, les maîtres entre eux à l'intérieur des collèges doctoraux, les compatriotes dans le cadre des nations, mais aussi constituant elle-même un réseau fonctionnant en réseau, comme on dirait aujourd'hui, uni, qu'elle soit de type parisien, Universitas Professorum, ou de type bolognais, l'Universitas Scholarium, unis par la même unité institutionnelle et juridique fondamentale, jouissant de l'autonomie garantie par le pape, régie par les mêmes dispositifs statutaires, cursus, grades, et même si certaines sont plus réputées pour le droit, d'autres pour la théologie, d'autres pour la médecine, par les mêmes textes de base. Aristote pour la philosophie, la Bible et les sentences du Lombard en théologie, les deux corpus juris en droit, Galien et Avicenne pour la médecine. En un mot, une universalité théorique qui fondait en droit la possibilité d'une mobilité généralisée des hommes, maîtres comme étudiants, qui fondait en droit la possibilité d'une mobilité généralisée des hommes. Donc, mobilisée au sein d'un réseau universitaire européen et célébrée en 1888 dans un discours de Giosuè Carducci prononcé lors du 8e centenaire de l'Université de Bologne et cité par Jacques Verger. Je cite à mon tour. Après des voyages qui étaient des aventures, par mer ou à travers les Alpes, les savants de l'Europe entière se réunissant ici retrouvaient leur patrie dans les nations dont se composaient les universités. L'université constituait pour eux un État. L'usage commun de la langue latine les faisait aspirer à cette unité supérieure, à cette fraternité civile des peuples aspirant au bien, vers laquelle Rome a conduit par la loi que l'Évangile a proclamé pour l'esprit, que la civilisation actuelle veut atteindre par la raison. Tel est donc l'état de l'Europe chrétienne à la naissance de Pétrarque, en 1304. Lui-même a trouvé naturellement sa place dans la Respublica Christiana. Après avoir appris la grammaire et la rhétorique avec Convenevole da Prato à Carpentras, il entame, répondant aux vœux de son père, qui le destine au notariat, des études de droit à l'université de Montpellier, puis de Bologne, mais les abandonne à la mort du père pour entrer dans les ordres mineurs, comme plus tard, avec les mêmes raisons, Ronsard. Ensuite, il devient le secrétaire du cardinal Giovanni Colonna à la cour d'Avignon en 1330, puis, avec l'appui de ce dernier, chanoine de Lombèse en 1335, de Padoue en 1349. Cependant, quand en avril 1343, son frère Gherardo décide de devenir chartreux et entre au monastère de Montrieux. Notre Pétrarque s'insère donc sans difficulté dans les structures de la société chrétienne. Mieux, il a sa propre vision de l'organisation du pouvoir que partagent non sans conflit le pape et l'empereur. Il dénonce la corruption qui règne à la cour d'Avignon, la Nouvelle Babylone, et surtout ne cessera de plaider pour que Rome redevienne la capitale de l'Église et de l'Empire. Mais, par d'autre côté, franc-tireur ou électron libre au regard de l'ordre dominant, il a fondé, pour le dire dans les termes de Pierre de Nolhac, dans cette Europe sujette au pouvoir ecclésiastique, une puissance nouvelle, hors de l'Église et de l'État, toute morale, toute moderne, la République des lettres. C'est le Pétrarque politique, non pas pour reprendre les mots mêmes de Marc Fumaroli à Barcelone en 2013, au sens classique du terme, politique de pouvoir, mais politique de l'esprit. Je cite, ce figure dans l'avant-propos à la République des lettres. Ce qu'il a cherché toute sa vie à faire, c'est de trouver, ou à défaut de créer, en voyageant, en fuyant l'un, en rejoignant l'autre, en faisant vraiment de sa vie une sorte de course de relais pour échapper en quelque sorte à trop de contrôle, une sorte de société de laïcs et de clercs qui partagerait sa vue centrale. Donc l'idée que je recite, si le christianisme est bien la véritable religion, si l'Europe est chrétienne, il lui manque ce qui était merveilleusement développé dans l'Antiquité païenne, c'est-à-dire la civilisation, les bonnes manières, la conversation, le dialogue, la capacité en quelque sorte de sortir de la brutalité, de la barbarie et surtout de la guerre. Il a été ainsi le premier, je continue à citer, il a été ainsi le premier à encourager le développement d'une communauté européenne de littérati, lettrés qui ont le sentiment qu'ils ont une mission à remplir pour rendre l'Europe moins brutale et capable d'un développement à la fois littéraire et dans une certaine mesure scientifique, en tout cas philologique, qui lui permette de se sentir la continuatrice de la civilisation gréco-romaine. Deux découvertes hautement symboliques illustrent cette révolution en même temps qu'elles anticipent sur les exploits à venir de Boccace ou de Poge. La découverte du Pro Archia et celle des lettres à Atticus de Cicéron. En 1333, à Liège, Pétrarque, âgé de 29 ans, a trouvé et copié de sa propre main un manuscrit du discours pour Archias de Cicéron, prononcé en faveur du poète grec de ce nom, auquel on refusait le titre de citoyen, et qui s'appuyait sur une défense passionnée de la poésie et des littérae. Haec studia adolescentiam alunt, ses études soutiennent la jeunesse et divertissent la vieillesse. Elles améliorent la prospérité et offrent un refuge et un confort dans l'adversité. Elles nous ravissent quand nous sommes chez nous, sans nous gêner au dehors, et sont avec nous la nuit, quand on voyage et quand on visite la campagne. Pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. Pétrarque aimait cette citation et y fera souvent référence. Et dans la marge d'un passage où Cicéron utilisait l'expression « literarum lumen », la lumière de la littérature, il avait écrit « lumen literarum » et dessiné un petit croquis de lampe. Ce superbe éloge des lettres sera quelques années plus tard l'axe principal de la « collatio laureationis », le discours qu'il prononce en 1341 à Rome, sur le Capitole, où il est couronné poète, et qui, mieux qu'aucun autre texte, enregistre le déplacement d'intérêt qui s'opère d'un savoir spécialisé, théologique et scolastique, à une réflexion sur l'éthique. Le procès que Pétrarque fait à la scolastique porte à la fois sur le fond. Les sectateurs d'Aristote ont été le logique, ont sacrifié à une vaine affectation de savoir. Et sur la forme, ayant en inversion les méthodes d'enseignement qui prévalent au sein de l'Université de Paris, les fameuses questiones, ce savoir de Paris, il ne cesse de fustiger dans le contra medicum et dans le ipsius ignorantia, la foule insensée de ces braillards de scolastiques. Une telle réorientation commande une réforme de la langue par le refus des deux grands styles dominants, le stylus parisiensis, mais aussi les artes dictaminis. En échange, on verra le retour de l'eloquentia, grâce à la réappropriation de la langue de Cicéron, de Virgile, d'Augustin, ce fruit parfait, qui a ouvert la voie à la sagesse, comme le dira plus tard Lorenzo Valla, et qui va devenir pour un temps le moyen d'expression et le moyen d'échange privilégié entre savants de nations différentes, pour plusieurs générations à venir. Elle commande aussi la constitution, ou plutôt la reconstitution de la bibliothèque, où à la place des ouvrages de théologie reviennent en foule et dans l'enthousiasme partagé les auctores, les auteurs, qui embrassent toutes les connaissances et au premier rang desquelles trône la poésie, qui, pour un Thomas d'Aquin, faisait partie des infimae artes. L'autre événement symbolique dans la vie de Pétrarque est sa découverte en 1345, dans le fond de la capitulaire de Vérone, des lettres à Atticus qui lui inspireront de composer un recueil de sa propre correspondance. Elle est réunie aujourd'hui, cette correspondance, dans les 11 volumes des classiques de l'humanisme et dans la correspondance choisie parue aux belles-lettres. Sa publication a été le modèle, à son tour, des grandes correspondances humanistes de Jean Pic, d'Erasme, de Juste Lips et plus tard de Voltaire. Mais le solitaire du Val-Clos, l'auteur de La vie solitaire, n'avait pas attendu cette date pour partager avec l'élite intellectuelle de l'Europe ses idées sur le monde et sur les livres. Sa solitude, qui n'est que le refus de la foule, le met en contact avec une riche chaîne d'esprits frères, comme il l'écrit à Zanobi da Strada, dans la Familiaris 15.3. C'est ici que j'ai établi ma Rome, mon Athènes, ma patrie elle-même. C'est ici que je rassemble souvent tous les amis que j'ai maintenant ou que j'ai déjà eus. Non seulement ceux qui ont été avec moi en relation étroite et familière et ont vécu avec moi, mais également ceux qui sont morts plusieurs siècles avant moi, que je connais grâce à leurs écrits et dont j'admire soit les actes et le caractère, soit l'éloquence et le talent. Je les rassemble de tous les pays et de toutes les époques dans cette étroite vallée et je parle avec eux avec plus d'empressement qu'avec ceux qui croient être vivants, parce que chaque fois qu'ils émettent de leur poitrine leur souffle fétide, ils envoient la trace dans l'air glacé. La lettre, bien sûr, est l'élément idéal du partage. Les lettres de Cicéron s'adressaient à deux ou trois interlocuteurs privilégiés, celles de Sénèque au seul Lucilius. Les lettres de Pétrarque, plus de 4000, le mettent en relation avec les lettrés de l'Europe entière, que dis-je, avec ceux des temps révolus, comme Cicéron, Quintilien, Horace, avec les Italiens, ses proches, comme Boccace, Coluccio, Salutati, avec les Français, Jean de Montreuil ou Philippe de Vitry, les Allemands, comme Jean, élu évêque de Naumbourg, chancelier de la cour impériale, à qui il écrit, dans une familière, « J'ai appris que mon nom, je cite donc, si petit soit-il, a maintenant traversé les sommets des Alpes enveloppés de nuages et vole sous le ciel allemand, de bouche en bouche parmi les lettrés. J'accueille donc ma chance avec joie et accepte avec fierté la bienveillance d'un si grand personnage. Bien que né loin du monde romain, tu as pourtant été nourri du langage de Rome et tu m'offres l'éclatante splendeur et la robuste vigueur de la langue latine. Tu fais en sorte que ce que l'on a dit de l'Italie, on puisse désormais tout à fait le dire de l'Allemagne. Elle ne serait pas plus puissante par la valeur et les armes si le travail que demandent les études n'effrayait pas ces hommes de talent. Ta plume est pour moi un magnifique témoignage de la faconde transalpine. » Nous avons choisi cette lettre à dessein parce que, en même temps qu'elle met en évidence un projet ambitieux, celui d'une Europe gagnée tout entière à la cause des humanités, elle en désigne encore les limites. Des limites qui existent dans l'esprit de Pétrarque lui-même, dans sa conviction, maintes fois affirmée, qu'en dehors de l'Italie, on ne trouve ni poète ni orateur. Extra italiam poetae et oratores non querantur, dans la Senilis 9.1. Voir que le reste du continent est en proie à la barbarie, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ce sont des barbares. Opinentur ut libet barbari sunt, dirait aussi Gilson. À elle seule, la querelle qu'il engage avec la Sorbonne témoigne de la difficulté à penser, à moins d'une véritable colonisation, une Europe unie par l'égalité dans la culture. Or, voilà qu'un siècle plus tard, un Erasme, un Budet, un Vivès ont relevé le défi en attendant les Péresques et les frères Dupuis. C'est ce qu'enregistre, et nous finirons par là, ce chapitre du livre des jugements des savants d'Adrien Bayet, intitulé « Préjugés des nations et du pays des auteurs », où il souligne l'émergence politique, religieuse, culturelle des Pays-Bas au début du XVIIe siècle. Depuis 200 ans, je cite, « Depuis 200 ans, les Pays-Bas sont parvenus à un degré éminent de gloire et de réputation par le mérite singulier de divers écrivains qu'ils ont produits. Et ceux qui jugeront de l'étendue du pays par le nombre de ses auteurs auraient peut-être peine de se persuader que tous les Pays-Bas fussent renfermés dans un si petit coin de terre. Il n'y a presque point d'art et de science sur lesquels il n'est tâché de faire des merveilles. Depuis la séparation des provinces unies avec les catholiques, vous diriez que la Providence, ayant abandonné les Hollandais à eux-mêmes, ait bien voulu les laisser jouir d'une espèce de félicité temporelle dans le grand nombre de savants qui sont nés ou qui se sont rassemblés chez eux des autres régions de l'Europe. Et les autres nations n'ont pu regarder sans jalousie la gloire que ces nouveaux républicains se sont acquises en si peu de temps par le mérite et la réputation de tant de grands hommes de lettres qui ont excellé dans presque toutes sortes de connaissances humaines, plutôt que par le bonheur de leur grand capitaine et le succès de leurs armes. Je vous remercie.
Un très grand merci, chers collègues, pour ce magnifique parcours historique qui nous a, vous avez retracé en quelque sorte cette translatio studio qui nous fait passer de l'antiquité classique à la république des lettres de l'âge classique à travers différentes étapes que vous avez particulièrement bien explicitées, l'étape de l'extension de la citoyenneté romaine à l'ensemble des habitants libres, en tout cas, de l'Empire romain, en particulier par l'édit de Caracalla, l'étape de la république de la foi, mais qui est aussi une république de la transmission des savoirs classiques dans les écoles monastiques et cathédrales. Et là, il faut être particulièrement reconnaissant à ces pères de l'Église, en particulier Augustin ou bien Jérôme ou d'autres qui les ont suivis, de ne pas avoir vu d'antinomie nécessaire entre les lettres païennes et les lettres chrétiennes, et donc d'avoir jugé bonne la transmission de ces lettres païennes qui pourtant, a priori, auraient pu paraître étrangères aux valeurs de l'Église. Il y a eu là, quelque sorte là aussi, ce geste, me semble-t-il tout à fait intéressant, qui est un peu un équivalent du geste caracalien, si je peux utiliser cet adjectif, d'inclusion des externes, et dans quelque chose qui serait un patrimoine commun. Et ce que vous avez montré dans la dernière étape, qui commence avec le passage par Pétrarque, est tout à fait passionnant, à savoir le passage par Pétrarque de cette Respublica Christiana aux prémices d'une Respublica Literaria, et dont on pourrait dire même que c'est une république des lettres. Et là, le français nous est utile, comme le latin nous empêche empêche le jeu de mots, parce que cette république des lettres est aussi une république respublica epistularum, une république qui passe par les lettres, qui passe par la correspondance. Et Pétrarque joue évidemment dans cette renaissance un rôle absolument moteur. Vous avez rappelé à très juste titre le moment de ce couronnement de Pétrarque à Rome, mais je voudrais simplement rappeler que, puisque c'est Pétrarque lui-même qui le raconte dans l'une de ses lettres, l'épisode est-il, l'anecdote est-elle vraie ou controuvée, ou est-elle juste un apologue, mais Pétrarque raconte qu'il a eu à choisir entre deux couronnements, hein, le couronnement précisément par la Sorbonne, par l'université de Paris, et il a attendu que lui vint sans doute, enfin du moins est arrivé en même temps la proposition de couronnement par le roi de Naples, qui est un couronnement qui avait lieu à Rome. Et il a choisi, finalement, dit-il avec beaucoup d'hésitation dans sa lettre de remerciement à l'Université de Paris, il a choisi le couronnement à Rome. Alors, parce que sans doute, il y a la grande tradition de romaine qui était derrière, de l'Empire, de la Translatio Studi, mais aussi, et ça vous l'avez dit très très bien, il y a ce refus du scolasticisme qui aussi est présent dans ce choix de Pétrarque. Et donc ce choix de Rome pour le couronnement, ce choix de l'Empire est aussi un choix caracalien. Et c'est cela que je trouve c'est très beau dans votre exposé, c'est-à-dire que vous avez rappelé cette sorte de mépris que pouvait avoir Pétrarque pour les non-italiens qui n'avaient pas accès à la culture romaine, barbari sunt. Mais justement, le geste de Caracalla, il va se reproduire au bout du compte dans le développement de cette république des lettres, avec l'inclusion progressive, comme vous l'avez très bien dit, de ces autres nations à l'intérieur de ce commerce intellectuel, ce commerce des lettres. Et je trouvais que votre exposé était vraiment un très très bel hommage aux objets du travail de Marc Fumaroli, précisément qui a mis en évidence effectivement ce fonctionnement, comme on l'avait peu fait avant lui, de la République des Lettres, en particulier à l'âge classique. Alors peut-être que, avant de céder la parole pour d'autres questions, peut-être que vous souhaiteriez commenter des choses que je viens de dire et aussi peut-être éventuellement présenter l'anthologie que vous avez faite. Mais voilà, c'était...
Je me garderai de commenter un commentaire.
Non, mais répondre ou apporter des précisions supplémentaires.
Ce que vous dites, effectivement, j'ai pensé à... Sans citer Marc à chaque pas, j'ai pensé lui rendre hommage en emboîtant d'une certaine manière... ce que je pense aussi, d'ailleurs, ce que lui-même... Peut-être que le mieux est de présenter, si je peux me permettre...
Oui, je vous en prie, je vous y invite.
Peut-être. Le volume qui est une anthologie, qui reprend donc le titre de l'ouvrage de Marc Fumaroli, paru d'abord en espagnol, en 2013, puis en 2015 en français, ce qui est... qui est donc je vous ai peut-être eu en main l'anthologie de la querelle des anciens et des modernes, hein, donc c'est un peu le même projet, c'est de mettre sous les yeux les textes, on ne peut pas dire fondateurs, mais enfin les textes qu'on peut utiliser, parce que bon, c'est évidemment imparfait, et on pourrait être beaucoup plus prolixe. Oui, la préface n'a pas... Marc n'a pas eu le temps d'écrire la préface, c'est au moment où il était hospitalisé, même si on lui avait confectionné un petit fascicule avec tous les textes qu'il a transporté, je crois, avec lui, qu'il a perdu une ou deux fois. Mais ce qui fait que, bon, en l'absence d'un écrit direct de sa part, il nous a semblé intéressant de reprendre, et nous avons eu la chance, de retrouver en ligne, je veux dire, le discours, l'espèce d'interview, mais qui était une présentation à Barcelone, invité par l'éditeur de Barcelone, qui était donc là où il a été né d'abord. Et c'est donc la transcription, disons, de ce que l'on a appelé des Fumaroliana.
Donc, vous avez une grande tradition de l'époque classique.
Oui, tout à fait. Donc, on a osé ce titre des Annas. Donc, l'ouvrage commence par les Fumaroliana et se termine d'ailleurs, par la fin, avec d'autres Annas que nous avons ajouté, évidemment. Bien, c'est une... Alors, nous avons pensé à chaque fois, peut-être à chaque chapitre, de remonter, de donner un exemple, classique, parfois, quand il existait. Donc l'ouvrage, d'ailleurs, commence avec le Proarchia. Il y a des parties classiques, et puis donc c'est évidemment nous commençons par Francesco Barbaro et la première occurrence d'humour direct, d'humour, enfin du moins dans l'imprimerie d'humour République des Lettres. Je vous invite à la lecture. Nous poursuivons donc cette lecture, mais qui s'arrête à la Révolution. À peu près. Il y a quelques textes qui dépassent, mais nous n'avons pas. Il n'y a pas de texte postérieur. Il fallait se conserver la partie. Nous ne sommes pas allés jusqu'à Chateaubriand.
Oui, c'est le principe même de la République des Lettres, et ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que l'esprit du lettré passe par le dialogue et passe par les proches. Et donc, on peut ne pas citer Marc Fumaroli dans une communication, mais sentir en fait la présence de l'esprit, si je puis dire, fumarolien dans
vous voulez dire que je suis hanté.
Tout à fait, exactement. C'est un cas de possession dans lequel nous avons assisté dans le bon sens du terme. Non, je trouve ça très caractéristique précisément de ce qu'est la République des Lettres, à savoir le passage des savoirs d'un esprit à l'autre. Et sans nécessairement que la nomination ait lieu.
Alors évidemment, la République des Lettres sous-entend qu'évidemment il y a à la fois des correspondances, des journaux, etc. Tous les moyens de communication de ce commerce littéraire, de ce commerce des esprits plutôt. Et donc nous avons pensé faire une partie sur d'abord les assises du savoir, le savoir en réunion, les modes de partage, les débats et les querelles, je me permets de... et donc des portraits à la fin. Donc, il a fallu garder une mesure dans tout cela.
En tout cas, c'est une très belle entreprise, très beau volume, et qui, enfin, je l'ai eu entre les mains à l'instant, je l'ai trouvé fort beau et absolument, absolument, absolument passionnant, et un prix raisonnable, qui plus est. Encore une dernière chose, peut-être que des questions arriveront par la suite. Vous avez employé un terme qui m'a beaucoup intéressé en parlant de Pétrarque. Vous l'avez présenté comme étant le promoteur de ce que vous appelez, je crois que c'est le terme que vous employez, une politique de l'esprit. Et c'est un terme, je crois, très juste pour l'époque, mais pour le en partie moderniste que je suis et à qui Paul Valéry est très cher, c'est un terme qui est un terme typiquement valérien, hein, de politique de l'esprit. Et il me semble, et c'est le rapprochement que la question peut-être que j'essaierai de vous poser par rapport à Marc Fumaroli, justement. Il me semble qu'effectivement, dans ce qu'on voit avec Pétrarque et dans le passage de Pétrarque par la République des Lettres de l'âge classique et jusqu'à Marc Fumaroli et en passant par Paul Valéry, on a au bout du compte cette idée que les grands enjeux intellectuels, les grands enjeux culturels qui sont liés au savoir, à la connaissance du passé, ne sont pas antinomiques, ni contradictoires, ni antagonistes, loin de là, avec les enjeux d'une politique à proprement parler, de l'esprit au sens large, c'est-à-dire la façon dont la vie intellectuelle, culturelle, littéraire, artistique, se développe à l'intérieur d'une nation, d'une cité, d'un pays. Et je ne sais pas si ce terme de politique de l'esprit que vous avez employé allait vraiment explicitement dans ce sens-là, mais il m'a semblé y voir quelque chose comme une sorte de continuité de... Alors, ce que Patrick Dandré appelait ce matin l'engagement, avec beaucoup de réticence, mais je pense qu'on peut l'employer, mais en tout cas, un sens de la responsabilité. Un sens de la responsabilité de l'intellectuel, de l'érudit, du lettré, alors même qu'il pourrait paraître éloigné des enjeux contemporains, un sens de la responsabilité dans le fonctionnement culturel, intellectuel, politique de son temps. Est-ce que vous verriez là aussi une sorte de continuité de Pétrarque à Marc Fumaroli, en passant par Paul Valéry?
Oui, on aimerait bien. Oui, on peut le. Enfin, en tout cas, je pense que Marc l'aurait revendiqué, ne serait-ce que lui-même a écrit sur la politique de l'esprit. Il a écrit. Oui, je pense que c'est une. Oui, c'est peut-être même d'ailleurs une assise qui permet de s'engager d'une manière assez très libre dans cette. Mais alors vous êtes plus. Je pensais à Valérie, ce qui est un peu une. Quel rapport vous avez une idée peut-être précise à quoi vous pensez?
Moi, Paul Valéry a écrit des textes sur la politique de l'esprit. Et le terme est employé lui-même par Valéry, et on connaît son texte le plus fameux qui date de 1919 sur la crise de l'esprit Première Guerre mondiale.
C'est à ça que je pensais. Oui.
Voilà. Oui. Mais effectivement, ce terme d'esprit est très présent dans sa pensée et également dans les cours qu'il a donné ici même.
Oui, c'est un terme que l'on. Je citais Augustin tout à l'heure, c'est un terme qu'on a déjà sous la plume. Enfin, que l'on retrouve déjà chez Augustin, enfin, je veux dire, mais dans un à la fois dans un sens plus spirituel. Enfin. Alors, y a-t-il une spiritualité dans l'engagement politique? La question peut se poser, peut-être poser, en tout cas, je ne saurais y répondre directement.
Oui. C'est une question qui sera peut-être répondue par la communication suivante, je ne sais pas. Mais je trouvais vraiment intéressant ce passage-là, et le tout étant basé sur la découverte d'écrits de Cicéron, où là, c'est un peu l'inverse qui a lieu, c'est-à-dire qu'on a l'homme politique qui, lui, s'engage dans la vie intellectuelle et s'engage dans la vie intellectuelle et dans la culture et dans l'électron. C'est une conversion dans un autre sens, c'est la conversion inverse. Et
dans la défense d'Archéas.
Oui, tout à fait. Et donc, c'était pas le. Il y a là quelque chose d'une conjonction entre Cicéron, Pétrarque et voilà, Marc Fumaroli, quelque chose de très, très, très beau et très, très, très frappant.
Oui, finalement, le texte du Pro-Archéa qui ouvre le volume, nous l'avons agité à la fin. Ce qui nous manque. C'est lui qui permet de boucler l'arc entre les. Et qui fait le lien entre les textes. Enfin, finalement, vous avez raison, le passage d'un homme engagé dans la politique comme Cicéron, et qui, finalement, avec cette défense du poète, revient à la littérature. Enfin, si on peut dire des choses comme ça, c'est pas tout à fait exact. Enfin, bon, on peut voir les choses comme cela.
Y a-t-il d'autres questions? Je m'adresse aussi éventuellement à Carlo Sola ou François Graziani, s'ils nous écoutent depuis là où ils sont, comme on dit. Ils sont là. Carlo, Françoise, vous nous entendez? J'ai l'impression d'être Victor Hugo en train de faire tourner les tables.
Est-ce que vous m'entendez? Je
remets.
J'avais désactivé tout. Oui, merci Florence. Je suis contente de te revoir après beaucoup d'années. Et en effet, Marc Fumaroli parle lui-même d'engagement. C'est une position qu'il revendique à la fin de sa vie. Il revendiquait vraiment, oui, oui. Et le rapport à Valéry aussi, lui est parfaitement. Était parfaitement assumé.
Oui, il cite beaucoup Valéry, effectivement, dans ses textes. Hein, ça, je le sais fort bien.
Oui,
apparemment, Carlo n'a pas l'air d'être d'être là.
Si. Carlo, on t'entend.
Je voulais souligner, remercier Madame Lyonnais pour cette évocation si précieuse de ce qui manquait d'une certaine manière au moment de la fin de la civilisation classique et l'entrée en scène de la civilisation chrétienne. Ce qui manquait à la civilisation chrétienne, c'était, elle nous dit justement, la conversation, les arts de cette manière de l'otium studiosum. Et c'est ce que Marc Maroli, dans la profondeur, et je vous remercie beaucoup de l'avoir souligné, a essayé dans ses travaux de tenir ensemble à chaque fois. Le bonheur du partage de la sagesse venant évidemment de Cicéron et de l'héritage classique, avec la rigueur et le besoin d'éternel venant de la tradition chrétienne. Et je crois que avant lui, j'ose évoquer seulement certains noms qui ont essayé de tenir ensemble ces mondes dans leur parfaite dignité. De Pétrarque à Bossuet, par exemple, avec une amitié constante aux deux traditions. Et ça, c'est à mon sens la fascination la plus belle de la pensée de Marc Fumaroli.
Merci Carlo.
Oui, merci beaucoup. Merci pour cette intervention que je suis tout à fait. Oui, je ne vois pas ce que je peux ajouter.
C'est l'art de se taire qui s'annonce à nous. Enfin, j'essaie de faire une petite transition, mais voilà, nous vous remercions très, très chaleureusement.